Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 17 de la saison 4. C'est l'histoire d'une rencontre, de celle qui ferait un beau scénario hollywoodien. Je vous le dis parce que la coparentalité a souvent été traitée dans les rom-coms, comme on les appelle. Oui, mais cela finit inévitablement en vie amoureuse entre les protagonistes. Ce n'est pas pour rien que ces films rentrent dans la catégorie comédie romantique. Et ce n'est définitivement pas la réalité que vivent les familles qui ont choisi ce mode d'accès à la parentalité. En revanche, j'imagine bien le synopsis. L'histoire commence au détour d'une phrase lancée au hasard d'une discussion informelle entre collègues, sur le ton de la rigolade, un peu pour voir si la perche allait être saisie. Si tu cherches une mère pour faire un enfant, je suis là. Et la perche sera saisie. Certes, pas instantanément, mais la discussion sera relancée quelques mois plus tard. Les protagonistes de ce scénario sont Delphine et Alexis. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Cette fameuse phrase a été prononcée quasiment lors de leur première rencontre, avant même qu'une amitié soit tissée. Et puis elle a été oubliée aussi vite qu'elle a été prononcée. En revanche, l'amitié, elle, s'est bien installée entre ces deux-là. Ce que je retiens de l'histoire d'Alexis et Delphine, c'est avant tout qu'ils se définissent comme un couple parental, sans la version amoureuse du couple. Ils ont un fonctionnement solidaire sur l'intégralité des facettes de cette coparentalité. Et surtout, surtout, ils ont un profond respect l'un pour l'autre et beaucoup d'amour. Ils ont établi leurs propres règles, celles qui leur ressemblent, et ont créé une coparentalité à leur image, dans la confiance. Je le dis dans l'épisode, mais la coparentalité n'est pas souvent envisagée, et si elle l'est en première intention, elle souffre d'une image qui semble la rendre complexe. Alors Alexis et Delphine se sont donné une mission, lui donner plus de visibilité et casser les idées reçues qui lui collent à la peau. Vous pouvez vous rendre sur leur compte Instagram @pistachenco-parents pour découvrir leurs actions. Maintenant, je vous laisse découvrir l'histoire de cette très belle famille et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexis, bonjour Delphine.
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup, vraiment sincèrement, d'avoir bien voulu témoigner et d'être venu vers moi pour me proposer votre témoignage autour de votre parentalité qui est souvent évoquée, mais très peu fréquemment enregistrée, puisqu'aujourd'hui on va parler de coparentalité.
Oui.
Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît ?
Eh bien, moi c'est donc Alexis, j'ai 27 ans et du coup je suis le copapa de Danae, qui a 3 mois.
Et donc Anaï qui est avec nous.
C'est ça. Et moi, je suis Delphine, j'ai 38 ans et je suis la co-maman.
Je vous remercie encore une fois vraiment beaucoup. Je suis impatiente de découvrir, parce que j'ai quand même eu quelques petites infos, donc je sais un peu comment tout s'est déroulé. Donc, j'ai des petits potins aussi que j'aime bien, moi. Donc voilà. Est-ce que, alors, on va traiter l'épisode un peu comme un épisode, enfin, même pas un peu, on va traiter comme un épisode classique parce que finalement, il y a quand même eu une rencontre pour que vous puissiez parler de votre projet. Mais on va aussi traiter de votre désir de parentalité à chacun, donc de votre côté, et ce qui vous a amené à cette coparentalité. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me raconter votre rencontre ?
Eh bien, on s'est rencontrés au travail, du coup.
Ouais.
Mmh. On travaille tous les deux dans le médico-social, et donc auprès d'enfants, à l'époque en tout cas. Et donc moi, j'étais titulaire de l'aide appel 35, et Delphine était du coup remplaçante. Mais voilà, on s'est rencontrés au travail. Et donc voilà, on s'est rencontrés au travail.
Oui, du coup, ouais, on n'était pas aux mêmes endroits au départ. Donc on se croisait, mais on ne se parlait pas. Et à notre travail, quand c'est des vacances, on mélange les équipes. Et c'est là où on a pu discuter, se connaître en tant que collègue déjà. Et puis très vite, en fait, des liens sont créés, quoi, en fait, très très vite. Mm-hmm. Dans le bureau, donc c'est là.
Et alors, comment vous aviez réfléchi, enfin, a priori, vous avez assez rapidement finalement basculer sur l'idée d'une coparentalité, c'est pas fréquent comme modèle familial, c'est quelque chose qu'on ne connaît qu'une fois, enfin que parce qu'on s'est informé. Comment vous en êtes arrivé à l'idée de la coparentalité et surtout comment vous aviez réfléchi votre parentalité en amont?
Alors déjà c'est venu parce que j'ai lancé le sujet en rigolant dans ce fameux bureau. Enfin on s'est pas lancé le sujet, on parlait de nos amours. Et du coup, je lui avais dit, bah écoute, si tu cherches quelqu'un pour avoir un enfant, je suis là, quoi. Mais voilà, sans trop y croire, et en me disant, bah, je ne connais même pas, je lance ça n'importe
quoi. Sur le temps de la rigolade, quoi.
je arrête de parler, des films, ça sert à rien. Et puis, au final, t'avais dû retenir les choses quelque part, et puis on s'est retrouvés.
Non, c'était parce que toi, t'étais déjà plus informé sur la coparentalité que moi,
voilà,
et que ça, déjà ouais. Tu cherchais plus ou moins un copapa.
J'avais déjà été voir sur des sites de coparentalité, mais alors j'ai pas fait les sites payants, j'ai fait les sites gratuits et j'ai trouvé ça extrêmement glauque en fait. Enfin, ça correspondait pas à ce que je cherchais non plus.
Mm-hmm.
Du coup, bah voilà, je l'ai gardé en tête, mais sans trop y croire. Et puis, là, je commençais un peu à me dire, à faire le deuil, quoi. À me dire, bah, c'est pas la peine, de toute façon, je trouverais pas, et puis le temps de rencontrer quelqu'un maintenant, tant que ça se passe. Bon. Du coup, voilà. Entre temps, on est devenus vachement amis, puisqu'on a fait des sorties.
Ouais, parce qu'il y a une pause, quand même. Entre le moment où tu m'as dit, si ça tente, on a qu'à faire un enfant ensemble. Alors, on se connaissait du coup très peu.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est vraiment l'avantage. Enfin, je sais pas. Dans notre travail, c'est que du coup, on a eu des moments où on a pu vraiment échanger ensemble et du coup, vu qu'on s'entendait bien en tant que collègues, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus de notre vie intime.
Oui, j'ai l'impression qu'on a été plus, qu'on s'est plus vu à l'extérieur que.
Oui, parce que du coup, on s'est côtoyé après, mais c'est vrai moi en tout cas, j'avais pas du tout en tête sa proposition d'être co-maman avec moi.
Hein. Oui, c'était pas resté.
C'était pas du tout resté, et je me souviens juste en fait de ma pensée quand elle m'a sorti ça dans le bureau. Je me suis dit dans ma tête, alors elle est hyper directe, quoi, je la connais pas. Et ça direct, alors dans ma tête c'était un non catégorique parce que du coup on se connaissait pas et que je pouvais pas répondre à cette demande sans connaître la personne. Mais c'est vrai que du coup après ça, on s'est côtoyé à l'extérieur très souvent. En fait, on est devenus amis du coup ensuite. Mais c'est vrai que sans vraiment garder en tête cette idée de coparentalité, en fait, voilà.
Oui, en tout cas, c'est assez fou comme, c'était un peu une phrase jetée un peu en l'air et presque dans l'énergie de, j'arrive pas à trouver moi de mon côté une personne pour faire de la coparentalité, donc on verra, ça prend pas.
Ouais, j'aime pas les actes manqués, moi, alors. J'aime pas le, si j'avais su, je te l'aurais dit, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est dommage de passer à côté de quelque chose si on n'ose pas demander, quoi.
Oui, c'est ça.
Et alors toi, du coup, Delphine, quand tu faisais, t'as fait des recherches initialement sur des sites de coparentalité, mais comment t'en es venue à cette idée de coparentalité?
Parce que j'arrivais pas à trouver enfin voilà, je suis célibataire, que j'ai eu des relations mais que c'était pas forcément avec des personnes fiables, ou alors bah ça s'est très tôt arrêté, enfin bon bref, j'avais 30 là, j'ai 38, j'avais 37 ans et j'avais trouvé aucune personne pour fonder une famille. Mmh. Et à un moment donné, bah entre chaque personne à peu près, j'allais voir parce que je me suis dit bah bien falloir que j'y pense, j'en ai envie et bah comment je peux faire. Le problème c'est que je peux pas non plus le faire toute seule parce que ayant des soucis de santé, il y a des moments où j'ai besoin de relais. D'une, de deux, je vois bien, j'ai des amis qui sont mamans solo, mais la vie, c'est super compliqué quand t'es maman solo en France, y a rien pour eux, quoi.
Non, y a pas de relais.
Donc, ça, c'est pas possible. Donc, encore moins pour moi, du coup. Donc, soit je pense pas du tout. Soit, je fais le truc de folie, je le fais quand même, et j'avise. Et voilà. Après, toute la construction qu'on a fait avec Alexis, je l'avais pas en tête. Même quand je l'ai proposé à Alexis, c'était même, je l'ai dit sans trop me dire que ça allait forcément arriver, ou peut-être qu'il dira oui, je n'avais pas pensé que ça allait aller aussi loin, quoi. mais voilà, il a, voilà, c'est bien tombé, ça s'est bien présenté, ça s'est bien, enfin tout était juste ce que je voulais, donc, et en plus moi qui aime beaucoup tout ce qui est alternatif, là on était bien.
Ça tombait nickel. Ça tombe nickel. Et c'était quand cette fameuse discussion ? C'était il y a combien de temps ?
On nous la pose souvent cette question et on est, enfin, c'est assez loin. Enfin, on n'arrive pas vraiment à poser une date.
Bah déjà dans les années, ça fait à peu près il y a un an, quoi. À partir du moment où Anna est née, ça ouais. fait à peu près un an.
D'accord, oui, donc en fait, ça a été relativement vite quand même.
Oui, c'est ça. Bah, là, si on se base, oui, ça doit faire un an.
Oui.
Ah non, pour moi c'était avant l'été, mais toi tu dis que
pour
c'était
moi, pendant
l'été.
L'été ouais. Là-dessus on n'est pas.
D'accord, donc été 2021.
Où j'ai lancé cette fameuse phrase, oui.
Oui,
c'est d'accord. Ça. Ok. Et alors Alexis, donc toi tu laisses couler le truc. Quand est-ce que ça te revient en tête ?
Et ça me revient en tête assez vite aussi en fait. Comme sa proposition, moi ça m'est revenu comme ça. Je dirais courant octobre en fait, début octobre.
Oui, parce que j'étais partie en vacances, c'était après mes vacances.
Ouais, non, c'était début octobre où, en fait, on a, je sais pas, je dis souvent que c'était évident pour moi, mais l'idée, en fait, de revenir vers elle aussi, en fait, c'est, je sais pas vraiment comment l'expliquer, parce que j'y ai pas vraiment pensé, en fait, contrairement à des choses où je peux réfléchir beaucoup et ça peut, entre guillemets, me prendre la tête. Pas du tout ça, en fait, j'y ai pas réfléchi, je l'ai pas du tout, préparer, c'est vraiment en fait le fait de se voir et de se côtoyer souvent. Je me suis dit en fait effectivement je verrais bien Delphine comme la mère de mon enfant, et donc du coup on a passé une soirée en fait dans un festival rennais du coup avec une amie à nous, et en fait pendant la soirée je lui dis écoute je pense que t'as raison, on va finir par faire un enfant ensemble,
et puis voilà. Et on va au concert, il lâche avec ça quand même, hein.
Comme toi, ta proposition, moi, je te l'ai proposé.
Voilà, renvoyé de la même façon.
Sauf que moi, je me souviens plus du concert, tu vois, j'étais bloquée là-dessus.
Ah bah, et tu m'étonnes quand tu reçois une nouvelle comme ça, quand c'est quelqu'un te dit enfin oui, et en plus quelqu'un avec qui t'as construit des liens, waouh.
Bah oui. Et puis, ouais, après, le temps est passé, enfin, pas beaucoup, parce que du coup, moi, dans ma tête, c'était bah, non, mais il me dit ça.
Voilà, il est sérieux, quoi.
Ouais, il a dû dire ça comme ça. Alors, c'était ça. Pendant le concert, non, il a dit ça. J'ai du mal à comprendre. On est ressorti du concert, on s'est assis, on a bu un verre, du coup, avec Mimu, qui était avec nous. Et là, c'était étrange, parce que, en fait, c'était évident. On veut faire ça, on veut le faire comme ça. Et c'était comme si c'était ouais, c'est ça qu'on veut tous les deux, pareil. Je sais pas.
Mais on n'est pas vraiment entré dans les détails non plus.
Non, on a c'est fait que, vraiment voilà, un gros truc, quoi.
C'était.
On a quand même fait le détail de la maison.
Ah oui, parce qu'il y avait l'idée d'habiter ensemble.
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, okay. Peut-être qu'on est... Bah oui, c'est vrai que le minimum, c'était ça. Pour moi, je me voyais pas... Alors, autant je me voyais être père et j'étais prêt à devenir parent, autant je me voyais pas assumer un nouveau-né tout seul. Mais pas de garde alternée tout de suite parce que du coup, c'est quand même des moments importants. C'est beaucoup de stress, surtout pour le premier. Et du coup, tout seul, je me sentais pas de l'assumer, en fait, tout simplement. Et en plus de ça... pour moi, c'était évident que on puisse partager ces premiers moments en fait ensemble aussi. C'est-à-dire que quand elle marchera, on sera tous les deux, j'espère, là. Quand elle, enfin voilà.
Oui. Non mais. Bon après, des fois, c'est pendant le travail, hein. C'est chez la nounou aussi, vraiment.
C'est bon dans ce sens-là, je dis ça. En tout cas, voilà quoi. On partagera le même quotidien. C'est vraiment important.
Oui.
Et tu disais que tu étais prêt à être père, tu y avais déjà réfléchi, c'était dans un coin de ta tête ou en fait c'est cette phrase, cette discussion qui a lancé ta réflexion?
Non, c'était déjà très présent depuis très très longtemps en fait, même on va dire pendant mon adolescence, voire après, je savais que je voulais devenir père. Alors pour autant c'était pas forcément le moment, je le savais très bien, mais en tout cas j'avais ce désir de parentalité. Et du coup, étant homosexuel, c'est vrai que je me suis demandé par quel biais je pouvais passer pour devenir père. Et donc, après, voilà, je me suis renseigné pour l'adoption, pour la GPA. Et puis, c'est vrai que du coup, moi, je m'étais... Et aussi la coparentalité, j'y avais pensé. Mais c'est vrai que j'avais une idée reçue de la coparentalité. Pour moi, c'était deux couples homosexuels qui, du coup, faisaient un enfant ensemble. Donc, il y avait deux papas et deux mamans. Et je me souviens m'être dit, oh, bah, dis donc, éduquer un enfant, c'est déjà bien difficile des fois à deux, alors à quatre. Et je m'étais arrêté là-dessus, en fait, parce que pour moi, être à quatre et éduquer un enfant, bah, voilà, ça me correspondait pas et j'avais clairement des idées reçues, en fait, par rapport à ça. Et donc, du coup, en grandissant, je me suis un peu basé sur la GPA pour moi. Tout en la prévoyant quand même, parce que ça reste une méthode assez coûteuse et avec beaucoup de démarches administratives. Et donc, je me suis dit, je vais attendre d'être avec quelqu'un pour fonder une famille et faire une GPA. Mais voilà, sans vraiment savoir quand est-ce que ça allait vraiment se passer, quoi.
Ouais, donc effectivement, la réflexion a été déjà menée. Et effectivement, une GPA, ça s'anticipe, ça se fait pas sur... Ouais, c'est compliqué. Et oui, donc finalement, c'était un peu le bon timing, quoi.
Clairement, c'était le bon timing. Et en fait, la méthode qui nous correspondait le plus, en fait, autant pour moi que pour toi, je pense.
Ah oui,
Donc voilà. On a attendu personne. C'est vraiment ce qu'on s'était dit aussi quand on s'est rencontrés. On avait marre d'attendre quelqu'un, enfin, de faire des choses dans l'attente.
Alors oui, ça c'était un peu avant d'avoir l'enfant. Avant de penser à avoir un enfant. C'était le truc. On n'attend plus personne. Et on veut voyager, on y va. On veut faire ci, on y va et on le fait, ensemble. Et on était à trois. On était avec pas Mumu, du coup.
Nouvelle amie en commun.
Oui, c'est ça. C'est que c'est drôle parce que, du fait qu'on ait travaillé au même endroit, on a des collègues qui sont devenus amis, et donc des amis en commun, qu'on a aussi un meilleur ami.
Mal, du coup.
Ta meilleure amie, je la connaissais d'avant, moi. Voilà, il y a plein de choses qui... C'est drôle, en fait. Qui sont tout est plus facile, quoi.
Oui, clairement, vous avez construit, en fait, votre petit village à vous aussi, autour de vous. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez mis... quels étaient les grands principes que vous avez dessinés sur cette soirée, sur lesquels vous êtes mis d'accord?
Je crois que c'était les grands points. Je pense que effectivement, c'était du coup la cohabitation au départ.
Oui.
C'était de rester très proche géographiquement, de manière générale. Après, on ira en détail, mais en tout cas, c'était de rester proche géographiquement. Et je crois que on s'était dit de lui donner le maximum accès à la culture et à la musique. C'était un point qui était important pour nous.
Oui.
Voilà.
D'accord. Et vous avez quand même déjà, c'était assez visionnaire, quoi, de réfléchir à, alors que, la réponse venait d'être donnée, mais un peu aussi comme la question avait été posée, sans vraiment de discussion.
Ah oui, ça s'est fait. Depuis le début, on a eu des envies et des idées sur du long terme, alors qu'on n'était même pas encore en train de discuter de comment on allait le faire. C'est...
Ouais. En fait, on a vraiment fonctionné au fur et à mesure, au feeling. Voilà, quand on avait des questions qui nous passaient par la tête, bah, on essayait d'y répondre. Et puis quand on, voilà, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Mais après, on en a vraiment parlé en détail.
Alors, c'est ça. Après cette soirée, on n'a pas été plus loin après ça, quand même. Après, on a continué le concert, quoi. et du coup, chacun est parti. Moi, je sais que moi, de mon côté, je me suis dit, bah ouais, non, mais là, encore, j'y croyais pas trop, tu vois. J'étais encore en train de dire, bah non, mais lui, il dit ça, mais il peut encore changer d'avis, tu vois. Il est jeune. Et donc, j'y croyais pas trop. Et je me suis dit, je vais lui laisser quand même avant de reparler, comme ça. Lui en reparler en faisant, hey, mais l'autre jour, quand on était au concert. Je me suis dit, je vais attendre. Et un mois, je vous dis à peu près un mois. Bah non, parce qu'au bout de 15 jours, Alexis est revenu vers moi.
Je me souviens, c'était on s'est croisés dans le couloir.
Oui, je m'en
parce
souviens.
Qu'on bossait pas au même étage. Donc moi, j'étais au deuxième, toi, t'es au premier. Et on se croise dans l'escalier et je dis, au fait, Delphine, ce serait peut-être bien qu'on se voit, non, pour discuter de ce qu'on s'était dit au Grand Soufflet. Et je suis passé le soir.
Oui.
C'est effectivement chez toi.
Ouais, ça c'est vraiment tout fait au feeling, c'est fou. C'est génial. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit ce soir-là? Qu'est-ce que vous avez établi? Parce que je suppose que là, ça a été un peu plus posé.
On est vraiment rentré dans les détails de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas.
Sur financier, et l'éducation, sur.
Si on rencontrait quelqu'un.
Si on rencontrait quelqu'un, si.
Parce que c'est un sujet.
Et nos familles,
voilà, comment on voyait les choses chacun, quoi. Voilà.
Et ça a donné quoi? Pardon, hein, je suis curieuse de voir.
Ça nous souvenir.
Oui. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même vision en fait des choses. Ouais. Par exemple, le fait de cohabiter ensemble, on s'était dit pendant, je crois, les 3e ou 4e premières années de la petite. Enfin, ou de l'enfant, parce
que
de la pistache, parce qu'on l'appelait la pistache, on ne voulait pas l'appeler, vu qu'il n'y avait rien de fait, on la nommait la pistache. Et du coup, on s'était mis d'accord sur la durée, donc 3-4 ans. On s'est dit que finalement, on s'est établi plusieurs plans, c'est-à-dire plan A, on aimerait trouver un bien qu'on achète ensemble et qu'on divise en deux, avec la chambre de la petite qui sera centrale et qui pourra communiquer chez papa et chez maman.
Ah, ça, c'est parfait, ça.
Ouais, voilà, donc c'est notre plan A. Le plan B, c'était peut-être une construction. Le plan C, c'était...
La construction, mais avec le même principe.
Oui.
Vraiment, on tient à ce projet, à la base, qu'on ait la chambre de la petite qui va et chez papa et chez maman. Après, faut prendre conscience de la réalité qui est financier, qui est... Est-ce qu'il y a des biens qui existent qui pourraient nous permettre de créer ce genre d'endroit, est-ce que voilà. Et donc si on peut pas,
après il y avait le plan, je crois que c'était le plan C, si on pouvait pas aussi, si on était en couple chacun et que les personnes refuseraient éventuellement qu'on ait ce projet là d'avoir le dernier plan, mais sur lequel on négocie pas, c'est la même commune.
Alors à ce moment là on disait ça, maintenant pour moi c'est non négociable.
Mais en tout cas, voilà, on a élaboré quand même plusieurs plans jusqu'où on était prêt à aller au niveau de l'hébergement. Oui. Donc, on a parlé de ça. Après, pour rigoler, on s'est dit, tiens, note 3 prénoms garçons et 3 prénoms filles de ton côté. Moi, je vais faire pareil. Et après, on va les mettre en commun. Et puis, ça se trouve, on tombera sur le même prénom. Et puis, ça sera celui-là.
On a commencé déjà avant même d'essayer de trouver un prénom.
Ouais.
Et des fois, ça permet de savoir, de se rendre compte aussi de peut-être même de valeurs communes.
C'est ça. Et puis finalement, c'était rigolo parce que dans le prénom garçon, on avait la même souche, entre guillemets. Toi, t'avais marqué Milo et moi, j'avais marqué Émile. Et en fait, Milo vient d'Émile.
Oui, c'est vrai.
Et on s'était dit, on a trouvé le prénom garçon. Devenu une fille.
De toute façon, on a changé entre temps.
Oui, mais c'était...
Ça, c'est normal. Coup,
ça a conforté quand même l'idée de se dire, on a aussi les mêmes goûts.
Oui, et puis le prénom de fille, du coup, correspondait, enfin, il y a beaucoup de points communs dans les prénoms de ta famille et de ma famille.
Oui.
Et du coup.
Et on l'a choisi comme ça.
Et du coup, voilà. On allait, rejoignait les deux familles, donc c'était parfait.
Est-ce que vous avez discuté éducation à ce moment-là?
Oui, oui, je pense qu'on a dû.
Oui, on l'a fait. Ça a été très court parce que très vite, on était sur les mêmes points. Il n'y avait même pas, ok, bah ouais, ok. Donc, voilà. Il n'y avait pas, enfin, c'était logique.
Ouais.
Après, on a aussi.
On n'a pas creusé, mais il n'y avait pas eu besoin de creuser parce que il y a tellement eu cette confiance et cette évidence. Que ça, c'était, mais non, mais même pas. Et ça se voit de toute façon quand on est aujourd'hui, on a eu raison, parce qu'en fait, on fonctionne pareil. Et
je pense que ce qui nous a aidé au niveau plus ou moins de l'éducation, c'est que on travaillait tous deux auprès d'enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que du coup, mine de rien, les valeurs, on voulait un peu transmettre, la tolérance, l'ouverture d'esprit. Un point où vraiment c'était un point nommé pour nous, c'était le langage bébé.
Oui.
Mais parce qu'on pratique le macaton ensemble auprès des résidents qu'on accompagne, donc enfin voilà, on a de l'intérêt vraiment commun quoi.
C'est plein de petites choses où on était sur la même longueur d'onde et je me pose même pas la question encore aujourd'hui, je suis même pas en doute ou quoi que ce soit, de me dire « Ah, j'espère que ça va le faire, l'éducation avec Alexis. » Je sais que ça va le faire.
Ouais.
Je sais.
Et alors, est-ce que vous avez parlé aussi de la conception de cet enfant? Est-ce que pour vous, vous avez mis au clair cette partie-là aussi?
Oui. Ce soir-là, on en a aussi parlé. Et pour nous, c'était évident que c'était une insémination artisanale. Parce que de manière naturelle, c'était juste pas possible. Toi que moi, on ne voulait absolument pas. Puis même si on voulait, je suis pas sûr que ça aurait marché.
Je sais pas. C'était pas du tout.
Et après, on s'était quand même dit, et si pour le coup ça marche pas, parce qu'on avait aucun recul en fait. On a très peu d'informations sur Internet, et du coup, on s'était dit bon, si auquel cas ça prend du temps et que ça ne fonctionne pas, on ira peut-être sur une FIV, où on essaiera en fait au niveau médical d'aller en clinique pour voir si on aura plus notre chance. Mais en tout cas, l'idée première, c'était l'insémination artisanale.
D'accord, ok. Est-ce que vous avez posé tout ça par écrit ou est-ce que vous avez laissé... est-ce que pour vous, c'est un accord oral en fait?
C'est un accord oral.
C'est oral, ouais.
On n'a rien... On n'est pas du tout passé chez le notaire. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, il n'y a rien.
Non.
On n'a pas besoin, en fait.
Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que plus j'en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Et c'est vrai que plus je me dis, c'est quand même fou, toujours, hein. Confiance, quoi.
Après, si ça vous convient et si vous êtes vous voyez, si vous avez confiance l'un dans l'autre, c'est votre façon de fonctionner.
Ah oui. Encore plus maintenant, je trouve.
Est-ce que je peux vous demander au niveau économique aussi si vous avez, pas écrit du coup, mais si vous avez acté certaines choses ou pas?
On n'a rien acté du tout non plus.
On fonctionne en couple solidaire.
Ouais, on appelle ça comme ça.
Je sais pas
si ça existe. Parental solidaire.
Voilà, nous on a décidé que ça s'appelait comme ça. Donc on l'appelle comme. En fait, on a décidé tout notre monde. On n'a pas. On n'a rien qui correspond à ce que nous on voulait, donc on a tout construit. Et du coup, le couple solidaire, coparentalité solidaire, voilà, on l'a créé. Et du coup, on a un compte joint pour tout ce qui est dépenses communes et pour l'AE.
On a acheté une voiture ensemble.
On a acheté une voiture ensemble et du coup, les deux voitures sont sur le même prêt et on divise tout.
Après ma maison
Est-ce que c'est un bar?
Mais oui, parce que du coup, enfin pardon, je me permets. Après on peut couper, il y a aucun problème. Hein. Mais du coup, c'est quoi le choix qui s'est fait par rapport à la maison sur les options A, B, C, D?
Il faut que j'en parle. C'est qu'en fait moi à la base, avant de rencontrer Delphine, pour se remémorer, j'étais sur un projet de GPA. Donc un coût financier et donc je me suis dit l'idée première, c'est que je vais investir dans la pierre, donc je vais construire une maison ou acheter une maison pour y vivre seul avec ma chienne. Et puis le jour où j'ai envie de faire un projet de GPA avec quelqu'un, eh bien dans ce cas-là, on pourra revendre la maison et donc peut-être l'apport qu'on se sera fait financera la GPA. Donc là, d'accord, je suis allé très loin.
Non, mais t'étais déjà dans un projet de parentalité.
C'est ça. J'ai voulu en fait anticiper et j'avais pas envie que le coût financier m'empêche d'être père. Donc du coup, je me suis dit, bah quel est le meilleur investissement? C'est la pierre. Eh bien, je vais commencer maintenant. Donc j'ai commencé un projet de construction de maison. Au sud de Rennes, du coup, un tout petit projet de maison, parce que bah oui, il y avait que mes finances, hein, donc c'était une toute petite maison pour moi, enfin avec deux chambres, voilà, pour une personne solo.
Ouais.
Et donc du coup, la question de la maison, c'est justement ouais beaucoup posée. C'est un peu le stress, je pense qu'on a eu le plus, c'était par rapport à la maison, parce que du coup, moi, la maison n'est toujours pas finie.
D'accord.
Et donc la question c'était, est-ce qu'on va y vivre ensemble? Oui, mais elle est petite. Alors est-ce qu'on doit agrandir? Alors on s'est d'abord projeté sur l'agrandissement.
Mais non, parce qu'on peut pas le faire. La construction est trop
en avance.
Uh-huh. Ça a été quoi après? C'était ok, mais du coup on la met en location, on la met en vente.
Mmh.
Et du coup on s'est dit en location c'était mieux, mais avec les prêts que t'as fait, tu pouvais pas. Donc, est-ce que je me mets dans l'histoire et que je rachète le prêt pour pouvoir la mettre en location? Donc, ça, c'était une solution, sauf que ça implique le PACS, par exemple.
Ah, ça, tu vois, je pensais pas que ça impliquait, ouais. D'accord.
En fait, la banque, refuserait, en fait, que Delphine puisse participer au prêt si, du coup, il n'y avait pas d'engagement notarial, c'est-à-dire qu'on soit au moins PACSé, quoi.
Et, concrètement, si ça impliquait pas d'autres argent, on l'aurait peut-être fait.
Oui.
Mais ça implique aussi, du coup, si je rachète, de payer le notaire, tout ça, et c'est pas 2 euros.
Ouais.
Donc, du coup, non.
Mais on est resté très longtemps sur cette idée, parce que, autant à la base, on s'est dit, ben voilà, on va y vivre.
Comme cet argent de la maison va être pour l'argent de la maison après, voilà, c'était devenu une maison... solidaire, encore.
Et aussi parce que j'ai mené ce projet seul et que tu comprenais très bien que c'était mon projet solo,
oui,
et que je me voyais pas la vendre à peine, en fait, elle était construite, que je pensais déjà la vendre.
Ouais.
Et du coup, bon, là-dessus, on était d'accord de dire, bon, bah non, quand même, c'est dommage. Enfin, voilà, c'est un projet que t'as mené tout seul, faut pas regretter, en fait. Faut transformer l'idée, en fait, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et la vie a fait que on s'est retrouvé au nord de Rennes en location, et que j'ai changé de travail, et que du coup le fait de changer de travail nous permet de la mettre en location sans changer les prêts. Donc du coup.
Et le but sera le même. C'est
ouais.
Juste...
Oui.
Donc, administrativement, en tout cas, c'est plus simple comme ça.
Voilà.
Et du coup, quel est le plan qui a été donc? Pas à la construction, en tout cas pas de cette maison-là, et quel est le plan qui a été fait?
Eh ben, du coup, c'est que la maison qui est en train de se construire actuellement finira en location.
Voilà.
Là, donc, pour le moment, on a trouvé une location ensemble.
Ouais.
Et donc, dans l'idée après, c'est de pouvoir se lancer dans l'achat.
Ok.
Mais on se donne, en fait, on veut pas se précipiter, donc on a dit que on attendait déjà que la maison en construction soit terminée, que l'allocation soit mise en place, et à partir de là, on commencera à regarder pour vraiment une maison principale. Mais voilà, tout en prenant notre temps, parce que du coup, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc voilà, si on doit prendre plusieurs rendez-vous chez des constructeurs, ben on le fera. Si on doit appeler plusieurs agences immobilières, on le fera aussi. Mais voilà, on n'est pas pressé, quoi.
D'accord, donc ok.
Et on est même prêt à contacter recherche appartement ou maison pour nous trouver la maison. Alors,
voilà. C'est particulier comme demande, donc effectivement, ça peut s'entendre. Revenons-en plutôt à Anaï, qui n'était pas enfin à Pistache, qui n'était pas encore Anaï. Comment donc du coup, une fois que vous avez établi tout ça, est-ce que ça a été rapide en fait la mise en action, on va dire, ou vous avez encore eu besoin de réflexion?
Non, ça a été rapide à la base. Du coup, on se met d'accord sur la coparentalité en octobre.
Dire avec Alexis, tout est rapide.
Et c'est vrai qu'on s'était projeté pour commencer les essais. On s'était dit en mars. Puis je suis revenu vers Delphine une semaine après, peut-être. j'ai plus trop de notions. Mais en lui disant, oui, écoute, Delphine, marche, c'est un peu loin. Imagine si ça marche pas.
Après, faut savoir que tout autour de nous, en fait, on a eu pas mal de couples qui avaient des difficultés à avoir des enfants et qui passaient par des filles. Donc il y avait ça, le fait que j'ai 38 ans, plein de choses qui fait que je pense t'as amené à dire en fait on va pas attendre mars. Et du coup moi j'ai dit ok, en même temps c'est pas faux, c'est des vrais arguments.
Et du coup on s'est mis d'accord sur décembre.
Commencer en décembre.
Octobre à décembre, d'accord. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est vous avez parlé du fait que vous envisagiez potentiellement d'intégrer des conjoints à votre configuration familiale. Qu'est-ce que vous avez établi par rapport à ça?
Le qui m'aime me suit, quoi. Tu prends le package.
Ouais. On est très, très au clair là-dessus. Oui. C'est effectivement, en fait, maintenant, quand on rencontre quelqu'un, c'est plus nous, en fait, individuellement. C'est moi dans mon cas, il y a Delphine et il y a la petite, donc j'explique très clairement le projet, tout en disant que voilà, il faut laisser une place quand même à ces deux potentiels conjoints, mais que du coup il y a le package, on appelle ça le package, on prend le package ou on le prend pas.
Ok, bon après ça semble complètement cohérent.
Oui.
Je veux dire c'est la vie quoi.
C'est ça. Et puis c'est vrai que je vois pas vraiment la différence entre nous et puis des couples qui se sont séparés, qui ont refait leur vie, et voilà, qui ont des enfants, qui ont.
C'est clair.
La maman est toujours présente dans l'éducation des enfants. Voilà.
Oui, c'est exactement pareil. Ouais. Après, le petit côté atypique, c'est cette fameuse maison, mais sinon pour le reste.
Oui, c'est sûr que si le projet c'est d'habiter ensemble tout le temps. Mais dans une maison qui serait adaptée, c'est clair que c'est le package avec la maison.
Voilà.
C'est ça. Après, on vivra ensemble, mais pas vraiment. Enfin, ce sera les mêmes murs, mais on restera quand même très indépendants.
Chacun chez soi, quand même. Oui. On sera pas loin, mais chacun chez soi.
Ouais. Ok. Donc, revenons-en à Pistache. Premier essai décembre. Ça se maintient sur décembre?
Oui.
Wow. Et donc
dans une semaine, deux fois par jour.
Ouais, parce que du coup, vous aviez regardé un peu sur Internet comment fonctionnaient les inséminations artisanales, tout ça, ou vous y êtes allé au feeling?
Non, on a regardé un peu. Il y a des choses qui nous ont semblé un peu inconvenantes quand même. Et on a trouvé le système de la pipette un peu partout. Comment, c'était pas très clair.
On a été au feeling. Hein.
Ouais, après on a été au feeling. L'outil, on a regardé sur Internet, mais de comment après on fait, c'est au feeling.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je me souviens maintenant, il existe des kits d'assimilation. Bah oui, je t'avais montré.
Ah mais c'est le long truc. Ouais. Ah mais je vois pas ça.
Et on se sentait pas forcément à l'aise avec ça, donc on s'est dit la bonne vieille méthode, une pipette, un bocal. Un petit flacon en plastique, et puis c'est parti, quoi.
Ouais.
Et, et après, l'avantage qu'on a eu aussi, c'est que tu avais un suivi, toi, par une application qui te disait les semaines où...
J'étais hyper, hyper... Alors, je fais pas beaucoup de choses comme tout le monde, mais alors ça, c'était hyper carré. Quoi.
Réglé.
ça nous a aidé aussi.
Ah bah oui, ça nous a aidé, du coup...
Donc les semaines d'ovulation, on y a été pendant deux fois par jour, pendant six jours.
Donc Alexis était dans la salle de bain, moi j'étais dans ma chambre. Et puis il arrivait avec son petit pot et puis il me laissait tranquille le temps que je faisais ce que j'avais à faire. Et puis il revenait, j'avais les jambes en l'air. Voilà.
le standard.
Alors oui. Oui, ce qui est très drôle, c'est que je suis pas sûre que c'est ça, ce moment-là que ça a marché.
Ah non, mais on est sûr du moment où ça a fonctionné. On a été très laxiste ce soir-là et c'est là où ça a marché.
Voilà.
C'est souvent comme ça. C'est souvent sur les moments les plus bancals que finalement, ça marche.
C'est clair.
C'est ça. Après, ça a été quand même... c'était pas facile parce que du coup, vu qu'on avait des horaires décalés, deux fois par jour, ça impliquait de se lever
même si
à 5 heures du matin, même si tu travailles qu'à 14 heures.
Ouais.
Ah, c'était franchement en fin de semaine,
c'était dur.
On le fait ou quoi?
Ça vaut le coup ou pas? Non, c'est bon, on a essayé là.
On a fait le plus gros de l'ovulation, mais on est obligé de la faire là parce que chiant. Quoi.
Et alors, est-ce que ça a porté ses fruits?
Eh bien, 2 mois après, oui.
Donc sur la troisième tentative ou deuxième tentative?
Deuxième.
Deuxième. Waouh.
En janvier.
Franchement, c'est beau sur une insémination artisanale. Hein.
Ouais.
Bon, après, vous y avez mis du cœur, hein, donc.
Ah bah oui, parce que la deuxième fois, on a maintenu à 2 fois par jour pendant 6 jours aussi. Hein.
Aussi, ouais.
Donc,
jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, on a tenu, ouais.
C'est le bout. Ça a marché.
Et alors, ce test positif, ça s'est passé comment?
Ah, et ben, je m'en souviens, moi.
Alors, moi, je m'en souviens un peu, parce que...
Bah, en fait, t'avais déjà des ressentis de ton corps.
Ouais,
corps,
mais
fait,
moi, en fait, c'est ça. Que j'avais déjà eu, en fait, le premier mois, mais où ça avait rien donné, mais pour moi, à mon avis, il s'est passé quelque chose le premier mois. Je pense. Parce que j'ai eu les mêmes symptômes le deuxième mois, et là, du coup, je savais, quoi. Et Alexis?
Moi, j'étais moins sûr, du coup, vu que j'avais été quand même déçu la première fois.
Oui.
La deuxième fois, je me suis dit, ben, je vais vraiment être très content quand je vais avoir un résultat en face de moi, quoi. Donc, comme avant qu'elle fasse le test, elle me dit, mais c'est sûr, je suis enceinte et tout. J'étais là, oui, bah, va chercher le test, tu me le ramènes, et puis, ben, là, je pourrais être d'accord avec toi. Et donc, ouais, t'es allé chercher un test de grossesse, tu as fait le test, et puis t'es arrivé très naturellement comme d'habitude, t'as posé le test sur la table. Ah bah ça, c'est comme les tests Covid, hein. Quand c'est positif, ça se voit direct.
Je te l'avais bien dit.
Là. Et du coup, je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, en fait, ce lien avec le test Covid. C'était d'actualité, exactement. Et donc, effectivement, c'était le cas.
Excellent, excellent. Vous avez confirmé avec une prise de sang quand même, ou vous avez laissé
Oui, oui. Bah après, c'est enchaîné le parcours
classique.
Normal. Oui, exactement.
Et alors, dans ce parcours normal de grossesse, comment vous vous êtes présenté aux professionnels de santé? Est-ce que vous avez parlé de cette coparentalité ou pas?
Alors, mon docteur généraliste, oui. Elle trouve ça trop bien.
Génial.
La sage-femme de l'hôpital.
Alors, la gynécologue de l'hôpital, de la clinique,
n'était
pas au courant. On est passé comme un couple à chaque fois.
Ouais.
Ta sage-femme de prépa à l'accouchement, là.
Oui, alors, faut savoir qu'Alexis connaît mieux mon accouchement, de ma maternité à l'accouchement que moi. C'est vrai. Mais oui, la sage-femme qui m'a suivi pour l'accouchement était au courant. Sinon,
non, bah après.
Pendant l'accouchement, il y a eu une dame qui était au courant, plus une autre, puisque du coup c'était une copine à moi quand j'étais petite.
Non, après, c'est vrai que si on remémore avant l'accouchement, en tout cas, il y avait que le médecin généraliste qui était, et la sage-femme qui faisait les cours de prépa, qui était au courant. Et après, une fois arrivé à l'accouchement, bah, c'en est tout autre, hein, parce que là, on rentre dans le vif du sujet et on savait pas trop si on devait en parler ou pas. Et finalement, ça s'est fait très naturellement.
Oui, parce qu'il y a un moment donné où, du coup, bah, voilà, il y a les contractions et on te propose, bah, vous voulez faire une douche. Je fais oui, alors ben monsieur, venez, non.
non.
Non, ça va aller, et là je lui ai dit, j'ai une coparentalité, donc, ah pardon, excusez-moi, bah non, excusez pas, c'est pas écrit dessus, hein. Pas de souci.
Et donc du coup, le choix a été fait que Alexis, enfin le choix a été fait, c'était peut-être évident, hein, mais que Alexis, tu sois présent pendant l'accouchement.
C'était évident.
D'accord.
Mais même comme que je sois présent pour tous les rendez-vous médicaux, toutes les échographies, toutes les prépas à l'accouchement, tout ce qui était en lien avec la grossesse, c'était évident que j'y suis. Donc, ça a même surpris, en fait, les premiers temps, la sage-femme des prépas à l'accouchement. Elle aimerait avoir davantage de papas présents, et du coup, le fait que je sois là, bah...
Non, c'était chouette, hein. Tout le monde a apprécié, même les femmes qui étaient là, c'était cool. Ils sont devenus amis, d'ailleurs.
C'est marrant, ça.
Dès qu'on passe...
Mais ouais.
Et vos familles dans tout ça? Parce qu'on n'en a pas parlé.
Eh non. C'est ma famille qui a été mise au courant d'abord, que notamment ma maman qui, quand je suis allé la voir, c'était vraiment au tout début en fait. Quand on s'était dit qu'on faisait un bébé ensemble, j'en ai pas parlé à personne et je suis allé voir ma mère et elle me dit mais qu'est-ce que t'as, t'es bizarre, t'es vachement souriant là, hyper dynamique. Je dis oui écoute j'ai un truc à te dire, donc je lui dis voilà, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Delphine et elle m'a dit je t'arrête tout de suite, je sais où tu veux en venir. J'étais là je t'ai rien dit. Elle me dit tu vas faire un enfant avec elle. J'étais là oui c'est ça. Ça m'étonne pas. J'étais là d'accord.
Les mamans connaissent bien leur enfant.
Et voilà, c'est ça. Et donc du coup après petit à petit j'en ai parlé à ma sœur qui était mes sœurs qui étaient hyper contentes, les grands-mères, etc. Donc moi de mon côté c'est très bien passé.
Alors du mien aussi. C'est juste que j'ai attendu d'être vraiment enceinte pour pouvoir en parler.
D'accord.
Parce que c'est atypique, mais en même temps, comme ça vient de moi, ça les choque même plus. Parce qu'il y avait une question d'homosexualité de la part d'Alexis qui est pas forcément quelque chose de simple dans ma famille. Mais qui, finalement, maintenant, je trouve que c'est bon. C'est juste inconnu, enfin voilà, ils connaissent pas trop le sujet. Mais maintenant, de toute façon, Alexis est accueilli comme... comme le Saint-Dieu.
Non, finalement, après, ce qui nous a aidé aussi, je pense, c'est encore une fois, on était d'accord sur le fait que, avant que la petite naisse, on voulait avoir des contacts avec nos familles respectives. Oui. Et donc, du coup, dès qu'il y avait l'occasion de se voir, on y allait. C'est-à-dire que, ensemble. Autant c'était des repas de mon côté, tu venais, les anniversaires, tu venais. Et moi, pareil, en fait, tu m'incluais dans des repas. Et donc, c'est vrai que ça nous a quand même facilité de créer du lien avec nos familles respectives avant même que la petite soit là. Voilà, juste, on apprend à se connaître. Et maintenant, en fait, la petite est là et c'est plus fluide.
Oui, parce qu'en fait, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Que je suis intégrée, que Alexis est intégré. Ouais. Ouais, c'est ok pour tout le monde, et ouais, ok, c'est parti, quoi.
Ouais, et puis je pense que c'est plus concret, une fois que bébé est là, en plus, ou en tout cas, que la grossesse est actée. Le fait que ce soit concret, je veux dire, ça va se faire, en fait. C'est fait, c'est déjà là.
C'est ça.
Et c'est souvent que les gens ont besoin de ça, de ce côté concret, parce que des fois, ça paraît être une idée un peu non irréfléchie, on va dire, alors qu'en fait, c'est très réfléchi pour vous. C'était moins... peut-être moins, enfin, les familles, eux, ils ont un a priori, enfin, nécessairement, sur des méthodes un peu alternatives, et du coup,
qu'est-ce qu'elle va encore nous faire, Delphine? Plutôt, quoi. Donc, je savais que, à chaque fois, je leur amène des idées farfelues, du coup, pas farfelues pour eux. Là, du coup, je préfère attendre que ça soit concret, que je sois enceinte. Voilà, après, dans ma famille, il n'y a pas d'autres enfants, donc voilà, ça a aussi aidé, parce que ma mère, qui était en plus assistante maternelle, c'était un peu... c'était chouette, quoi. C'était un enfant.
Oui, tu m'étonnes. Souvent, les bébés sont attendus, quand même, dans les familles. C'est plus l'horloge biologique, en fait. Enfin, elles ne tournent pas pour nous, elles tournent pour eux.
Et oui, c'est ce qui fait que, d'ailleurs, il y a eu une période où je ne savais pas si j'avais envie d'avoir un enfant parce que j'avais ma mère qui me poussait derrière ou parce que c'était la société où j'étais un peu perdue à un moment. Et du coup, j'en ai fait carrément le refus. Je dis non, je ne veux pas d'enfant. Et puis, au final, à un moment donné, quand ça te prend au trip, ça te prend au trip.
Voilà.
Mais au moins, en refusant tout, j'ai bien vu que ça n'est pas d'ailleurs que de moi.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, une fois que ça te prend au trip, tu as conscience que c'est bien toi qui veux cet enfant et que c'est pas une injonction, quoi.
Voilà.
Ok. Et actuellement, donc, Moana, elle est petite, mais est-ce que vous prévoyez de la faire garder?
Là, elle a une assistante maternelle.
Elle a une assistante maternelle. Bon, nickel. Ouais. Et vous avez présenté votre famille en tant que coparentalité ou pas du tout?
Alors, en fait, le truc, c'est que on connaît cette assistante maternelle par le biais d'une amie. Et qui avait déjà lancé, elles sont amies, donc en fait, c'était, oh, j'ai un ami, et souvent c'est ça, nos amis. Hein. ils ont fait ça, ils vont se mettre en coparentalité, ils ont un bébé, enfin voilà, bref.
C'est les personnes qui sont les plus fières, en fait, c'est nos amis, hein. Ouais. C'est vrai. Ils sont tous fiers de dire,
Et donc du coup, quand on a vu Magali, l'assistante maternelle, y a même pas besoin de s'expliquer, quoi. Mmh.
Oui, c'était okay. Fait. Mmh.
Ouais, c'est logique, ouais. Pas de problème.
Non, mais c'est génial. C'est génial.
On verra quand ça sera la crèche.
Oui.
Mais ça nous est pas du tout. Ça, pour nous, c'est pas un problème de dire.
Non. On essaie juste de trouver le bon moment, en fait.
Oui, c'est ça. De quoi, savoir comment l'amener.
C'est parce ça. Ça
dépend comment les gens voient la vie, en fait. Mmh. Donc, ouais, si on sent que c'est un peu c'est chiant de le dire, on le dit pas, quoi.
Mmh. Ouais.
On simplifie en compagnon. Oui, mon compagnon. Voilà. Quand on sent que la personne est assez ouverte et à l'écoute, en fait, on le dit et en général, ça se passe très très bien.
C'est plus aux yeux de l'administration.
Mais là, oui, pour le coup,
on est couple, on est concubin, ouais. Et ouais. On simplifie les démarches administratives comme telles, parce que sinon.
Il n'y a pas de casque aux parents.
Voilà.
C'est ça, mais.
Nous veut bien.
La simplification se comprend complètement. Il y a un moment donné où on ne va pas chercher à se créer des problèmes, quoi.
Mais non, c'est ça. Nous, on sait quoi, c'est ouais. Principal.
Ouais. Vous savez, Anna, elle sait, enfin en tout cas pour le moment, elle sait à son petit niveau, mais c'est l'essentiel en fait.
C'est ça.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vraiment c'est passionnant. Moi, je trouve ça. Je suis sûre que j'aurais été capable d'aller sur une coparentalité si j'avais pas rencontré ma femme. Mais et du coup, je trouve ça génial d'en parler parce que c'est vraiment une façon de devenir parent qui libère de l'injonction du couple et de l'obligation de trouver la personne idéale et amoureusement et familialement. Et des fois, c'est pas compatible. Donc c'est plutôt très chouette qu'on en parle et je vous remercie vraiment encore une fois parce que c'est pas simple. À chaque fois que j'ai eu des histoires de coparentalité, il y avait toujours un des deux coparents qui finalement ne souhaitait pas la diffusion de l'épisode. Donc voilà. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai donc plusieurs enregistrements que je n'ai jamais diffusés parce que ça n'a pas matché quoi. donc
c'est
voilà.
Une envie aussi pour nous, en fait, c'est de transmettre. Donc merci à toi
d'avoir
créé cette chaîne de podcast, parce que du coup, nous, c'est vraiment ce qu'on veut. À travers l'Instagram, puis ta chaîne Coparents, c'est aussi ça, c'est de, en fait, on veut juste que des personnes qui soient dans notre cas ou pas, puissent avoir très vite l'information et que c'est possible et que ça se passe bien et qu'on en est fiers. Mmh. Et que c'est pas une barrière dans notre vie, au contraire, c'est un tremplin. Et voilà, moi, je veux qu'un jeune ado, ou alors un jeune adulte homosexuel qui sait pas comment faire et qui a envie d'être père et qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça, qu'il ait l'information très vite, qu'il se projette et qu'il se dise ah oui c'est possible et qu'il vive sa vie en fait.
Moi je voulais juste rajouter du coup tu disais qu'il y avait souvent dans les interviews un des deux coparents qui finalement ne veut pas que ça soit diffusé. Nous, on fonctionne pas comme ça. Enfin, je sais pas comment ils se sont mis d'accord, mais nous, il est clair que si quoi qu'on nous propose, on en discute avant. Et si il y en a un qui est pas d'accord, on le fait pas.
Oui, mais c'est en fait ça s'appelle le respect. Enfin, à mon sens, c'est juste.
Oui. Et c'est ça qu'en fait, c'est qu'il y a du coup beaucoup de respect entre nous et beaucoup de bienveillance.
Et la communication.
Ouais, voilà.
Voilà, il y a certains mots finalement. C'est clair.
Je le dis très souvent, je t'aime pas amoureusement, mais je t'aime.
Tu es la mère de ses enfants.
Et
amie. Et d'ailleurs, en parlant de ses enfants, est-ce que vous avez envisagé ou pas? Alors, je dis pas que c'est une obligation, hein, c'est juste que c'est forcément une question qu'on se pose, d'avoir un deuxième enfant. Ou vous resterez sur Anaé et c'est très bien comme ça.
On s'est dit en fait que pour l'instant on a Anaé. On n'a pas réfléchi à ça encore.
Ouais, bon, de toute manière, vous allez l'air de fonctionner beaucoup au feeling, donc je suis convaincue que ça pourra aller très vite, mais ça se fait en feeling.
C'est ça.
J'ai l'air d'avoir des ovaires en béton. Donc
Écoute, a priori, des ovaires en béton et des ovules très résistants. Donc écoute.
Et du bon sperme.
Voilà.
Jeune sperme, c'est pratique.
Tout va bien.
Ah oui, on a beaucoup d'humour. Ça, c'est. Il n'y a pas une journée sans rigolade.
Et c'est essentiel. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Et effectivement, tu signalais ton compte Instagram. De toute manière, je l'aurais remis, je le mets systématiquement en fait dans mes publications parce que ça me paraît essentiel de pouvoir. Alors, je demande toujours, hein, mais de pouvoir aller chercher l'information à la source quand on a. Parce que là, on a répondu à un certain nombre de questions. On a fait un témoignage, reportage un peu sympa, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails et que ça me regarde quelque part pas. Donc peut-être que par contre, si des personnes ont des questions plus en détail à vous poser, ben elles viendront très certainement vers vous.
Il y a plus de détails en plus.
Mais merci, j'ai découvert sur Spotify ta chaîne du coup et maintenant que je suis parent en coparentalité, je m'y intéresse quand même davantage à plein de familles et du coup ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça.
Merci beaucoup, c'est super gentil. À très bientôt alors, merci.
Au revoir.
La semaine prochaine est déjà une semaine de vacances scolaires pour notre zone. Les filles n'auront eu qu'un mois de classe, jour pour jour, leur école ayant repris le 5 janvier, plus tard que les autres écoles. Lundi prochain, je vais vous proposer la rediffusion du premier épisode enregistré avec Natacha lors de la première saison du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il fera écho à l'épisode de lundi dernier et vous permettra de resituer le contexte de sa parentalité solo. À compter du lundi 13 février, je vais vous proposer, comme l'année dernière, un épisode par jour dans le cadre de la Saint-Valentin. J'ai 8 épisodes enregistrés et ils nous amèneront jusqu'au mardi 21 février. Et puis on se retrouvera pour un épisode traditionnel de témoignage le lundi 27 février. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir cette perception, mais le temps passe tellement vite. Parfois j'ai envie d'arrêter la machine, mais je ne trouve jamais le bouton stop. Arriveront très bientôt les épisodes spéciaux autour des demandes en mariage, dans le cadre de l'anniversaire du vote de la loi du mariage pour tous. Cette année, pour les 10 ans, je vous prépare aussi un épisode autour de ce vote, avec une invitée spéciale. Vous allez rapidement voir apparaître sur les réseaux sociaux un appel à témoignage. Je ne vous garde pas plus longtemps, mais je dois vous avouer que cette année encore, j'ai découvert des histoires de rencontres plus extraordinaires les unes que les autres. Et clairement, la vie fait bien les choses. Parce que parfois cela ne se joue à rien. Je me permets de vous redonner, comme à chaque fin d'épisode, les possibilités qui s'offrent à vous pour soutenir le podcast. Bientôt, j'aurai une proposition supplémentaire à vous faire, je travaille dessus activement. Pour le moment, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast. Je suis beaucoup moins sur Facebook, donc n'hésitez pas à passer plutôt par Instagram. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien, et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I want to feel a little less alone, less alone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.